artistes en liberté.
Une émission goupillée par Fred et Hervé qui vous fait découvrir, dans les conditions du direct, les artistes locaux.
Ses parents tenaient boutique à l'auberge du bon Dieu, dans un cadre romantique, quelque part au bord des cieux. Des étoiles symboliques d'éclairage tenaient lieu. Ses parents tenaient boutique à l'auberge du bon Dieu. Elle naquit un jour de fête à l'auberge du bon Dieu. Elle avait si noble tête que le soleil cligna des yeux, que les petits oiseaux braves bêtes chantonnèrent à qui mieux mieux. Elle naquit un jour de fête à l'auberge du bon Dieu. Elle poussa sans parole à l'auberge du bon Dieu, pareille aux fleurettes folles d'un hasard mystérieux. Elle eut les blés pour école, pour professeur le ciel bleu. Elle poussa sans parole à l'auberge du bon Dieu. Un jour l'amour vint à elle, à l'auberge du bon Dieu, portant sur ses fines ailes un garçon aux jolis yeux. Elle ne fut pas rebelle et se donna de son mieux à l'amour qui vint à elle, à l'auberge du bon Dieu. Ses parents, hélas, apprirent qu'à l'auberge du bon Dieu, leur fillette avait sans rire fait un acte ignominieux. C'est du moins tout ce qu'ils comprirent de ce roman merveilleux. Leur fillette avait sans rire fait un acte ignominieux. Elle fut mise à la porte de l'auberge du bon Dieu. Va-t'en, le diable t'emporte, lui dit son papa furieux. Et la pauvre fille est morte, oui mesdames, oui messieurs, car elle fut mise à la porte de l'auberge du bon Dieu. Voici la fin de l'histoire de l'auberge du bon Dieu. Surtout n'allez pas la croire, ça rendrait triste vos yeux. C'est le vent d'une nuit noire qui soufflant mystérieux m'a raconté cette histoire de l'auberge du bon Dieu. C'est le vent d'une nuit noire qui soufflant mystérieux m'a raconté cette histoire de l'auberge du bon Dieu.
Bonjour les auditeurs, c'est Artistes en Liberté de retour pour ce mois de juillet. Bonjour Hervé.
Salut tout le monde.
Hervé, je te laisse présenter parce que tu es proche d'Yves Usureau. Oh, j'ai dit son nom, ça y est, tant pis. Allez.
Oui, je suis pas loin en fait.
Oui, voilà.
Oui, on reçoit ce mois-ci Yves pour un nouvel album qui vient de sortir qui s'appelle Première chanson de Georges Brassens.
Tout à fait.
Donc Yves, tu peux te présenter d'abord pour les auditeurs qui ne te connaissent pas.
Eh bien, je suis, comme on l'a dit, Yves Usureau, c'est du moins comme ça qu'on m'appelle depuis un petit bout de temps déjà, j'ai fini par m'y faire. Donc, moi, je suis au départ comédien, et je suis devenu un comédien qui chante. Voilà. J'ai commencé par mes propres chansons, et puis ensuite, je me suis orienté vers le répertoire de Georges Brassens, que je chante maintenant depuis une vingtaine d'années, en fait. Depuis mon passage à Paris, au Théâtre de Nesle, puis Bobino, et puis après on a fait pas mal de tournées en France et à l'étranger.
Toi tu as commencé par le théâtre, tu es allé au Cours Simon, et qu'est-ce qui t'a tourné vers Brassens, vers la chanson plutôt que le théâtre?
En fait j'ai mis les choses un peu à l'envers dans mon récit. J'ai commencé par apprendre la guitare grâce aux chansons de Georges Brassens. Voilà, à 12 ans, mon destin s'est ouvert.
Ton père t'a offert ta première guitare?
Oui, non, c'était pas comme ça, c'était bien plus, inattendu. En fait, je suis parti pour une colonie de vacances, donc train de nuit, comme dit la chanson, et dans le compartiment, à l'époque c'était des compartiments, on était, je sais plus, 8 par compartiment, que des gamins de mon âge, on avait 12 ans, et j'avais un gars à côté de moi qui a chanté Brassens toute la nuit. Brassens, je connaissais pas, hein, c'était, j'avais 12 ans, j'avais dû entendre une ou deux chansons, mais sans trop faire attention. Et j'avoue que les funérailles d'antan, ça m'a quand même impressionné. Et pendant toute la colo, ce gars a continué à chanter à qui voulait l'entendre, ces chansons de Georges Brassens. Quand je suis rentré de la colo, j'ai dû en parler à mes parents, qui ont dû en parler au Père Noël. Et comme le Père Noël n'est pas le dernier des imbéciles, à Noël, qu'est-ce que j'ai reçu ? Eh bien, une guitare avec un 45 tours de Georges Brassens et les fameuses funérailles d'antan. Et depuis, on ne s'est plus quitté. Donc après, moi, j'ai continué à... J'ai appris la guitare. Bon, j'étais au conservatoire quand on a été... J'ai habité au Maroc quelques temps. Comme je foutais rien à l'école, mon père m'a retiré forcément du conservatoire. Et c'était pas plus mal finalement, parce que je me suis retrouvé avec ma guitare, des disques de Brassens que tout le monde m'offrait pour le moindre anniversaire qui me tombait dessus. Et puis, ben, j'ai appris comme ça, sans trop m'en rendre compte, les chansons de Georges Brassens. Et puis, à 20 ans, je les connaissais toutes pratiquement.
Et comment tu as commencé tes premières tournées alors ?
Alors après, j'ai oublié que je chantais Brassens. Après, ouais. J'ai été à l'armée, j'ai fait du théâtre. J'ai été au cours Simon. Voilà, c'était la promotion brillante. Brassens, c'était Bacri, François Cluzet, toute cette promo-là, quoi. On était dans les mêmes classes et on s'amusait bien.
Et tu as eu un prix d'interprétation.
Et j'ai eu le premier prix, ouais. Voilà. Mais pour dire que Bacri, lui, s'est fait virer du coup, il n'a pas eu de prix. Mais on était très potes et quand on se promenait dans le métro, on me disait « Tu vois, un jour, là, j'aurai ma gueule sur les affiches. » Et puis bon, ensuite, ben moi, en fait, j'ai rencontré ma première femme à l'époque qui faisait du cabaret, qui était amie avec Moustaki. Donc je me suis baladé pas mal dans les cabarets, j'ai vu ce qui se passait. Et puis un jour, elle m'a dit « Mais pourquoi tu ne chanterais pas tes chansons aussi ?» Alors je m'y suis mis, et puis ça a fonctionné. Hein. J'ai fait pas mal de cabarets parisiens, Montmartre, etc. Et puis ensuite, je suis parti avec elle, on s'est mariés, je suis parti vivre en Belgique, à Bruxelles. Mmh. Et là, j'ai continué avec mes chansons dans les cabarets, j'ai fait des tournées en Belgique, beaucoup. Et puis voilà. Et puis après, on est revenu en France. Et là, j'ai oublié que je chantais les chansons de Brassens parce que j'ai fait tout à fait autre chose. J'ai fait de la formation personnelle. J'ai ouvert un cours de théâtre. J'ai donné des cours de musique. Et puis un jour, alors là, c'était assez miraculeux. C'était un hiver. Ça devait être en 94. Un hiver ou 93. Il a fait très très froid. J'habitais une vieille ferme du côté de Noyon. Et en fait, j'étais tout seul dans cette maison. Ma femme et mes enfants étaient partis en voyage d'agrément. Et moi, je me suis retrouvé prisonnier chez moi, en fait. Je ne pouvais plus sortir. Tout était gelé et vitrifié. Pendant 3 jours, je me suis retrouvé dans cette espèce de grand paquebot posé au milieu des champs, qui était cette maison. Et j'ai été dans mon grenier et j'ai retrouvé des partitions de Brassens. Je me suis dit, ah mais tiens, mais ça serait chouette que je me remette à chanter quelques chansons de Brassens. Ce que j'ai fait tout seul dans mon coin. Et puis, au bout de quelques heures, j'ai téléphoné à Pierre Debième, le guitariste que je connaissais, qui m'avait accompagné à Bruxelles sur mes propres chansons. J'ai dit, dis donc Pierrot, tu voudrais pas qu'on se fasse une petite soirée Brassens, comme ça entre nous voilà. Et c'est ce qu'on a fait. À Fontenay-sous-Bois, on a réussi à avoir la salle municipale, qui s'est rempli, et le soir du spectacle, c'était plein à craquer. On a fait un spectacle, et ça marchait du feu de Dieu. Mmh. On était tous les deux, on avait à peine répété, en fait, et dans la salle, il y a un gars qui est venu me voir après, qui m'a dit, moi je veux bien produire votre spectacle, puis voilà. Et alors après, l'enchaînement a été très rapide, on s'est retrouvés au Théâtre de Nesle, à Paris, c'était pendant les grèves de transport, on devait jouer une semaine, une fois par soir. Et ça marchait tellement fort qu'on a joué 2 fois par soir pendant 15 jours. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de monde, la salle faisait 80 places, il y avait pratiquement le double de personnes qui attendaient. Donc les gens attendaient dans le bistrot que le premier spectacle se passe. Nous, on sortait de scène, on s'avalait 1 litre de flotte, on changeait de chemise. Pendant ce temps-là, il y avait le chassé-croisé de ceux qui sortaient de la salle et puis les autres qui rentraient et on renquillait un deuxième spectacle. Et c'est là que j'ai vu... arriver tous les potes de Brassens.
Ah oui.
Ça, c'était un grand moment et je ne m'y attendais pas du tout, en fait. J'ai vu Gibraltar, j'ai vu Poupchen, la femme de Brassens, j'ai vu tous les potes de Brassens qui ont débarqué et qui sont venus plusieurs fois. Et la cerise sur le gâteau, c'est que je suis devenu copain avec eux. Quoi. Voilà. C'est la belle histoire.
Tu parlais de Pierre Debième, c'est ton copain de toujours. Tu l'as rencontré par hasard, en fait, qui est le guitariste avec lequel tu joues.
Si, par hasard. Alors, Pierre Debième, à une époque, moi, je dirigeais un centre culturel à Bruxelles, et il devait donner des cours de guitare. Voilà. Mmh. Et il accompagnait parce qu'il y avait des, il y avait aussi un atelier de chanteurs et il faisait, il accompagnait les chanteurs en direct pour leur leur chansons. Et c'était là que je l'ai rencontré. Et j'ai vu que c'était un gars qui était très très créatif quand il avait une guitare dans les mains. Et je lui ai demandé certainement s'il voulait m'accompagner, ce qu'on a fait. Et puis bon, ça a tout de suite collé. On s'est tout de suite entendu musicalement.
On peut peut-être te demander quel était le titre de la chanson que tu as interprétée pour le début de l'émission.
Ah, c'était « À l'auberge du bon Dieu ».
À l'auberge du bon Dieu, voilà.
On va y venir. Ouais.
Voilà, et au niveau des paroles, dis donc, pour chanter ça, c'est pas évident à chanter ce genre de chanson, quoi.
Bah, c'est pas évident. En fait, rien n'est évident en chanson. Chanter, s'accompagner soi-même et chanter, apprendre les chansons, apprendre les grilles d'accords, bon, c'est un métier, hein, ça s'apprend. Faut apprendre les choses plus ou moins par cœur, vaut mieux. Hein. Et puis Brassens, c'est pas facile. Brassens, c'est un vocabulaire, c'est un champ lexical très précis. Bon, dans cette chanson, c'est évidemment moins évident que les chansons qui vont venir par la suite quand il sera connu. Là, c'est les premières chansons de sa jeunesse. On sent que, alors musicalement, il était déjà très, très, très à la hauteur, mais ensuite, au niveau des paroles, il avait encore du travail à faire. Il l'a dit lui-même, d'ailleurs.
Alors, toi, tu as fait deux CD de Brassens, de chansons de Brassens, déjà.
Oui, j'ai fait trois CD, en fait.
Trois CD de chansons qui étaient connues de lui. Et là, on te reçoit pour un CD de 12 titres, 13, 15 titres même, de chansons qui sont inédites.
Totalement.
Donc tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est chansons inédites ? Parce qu'on sait que Brassens, dès le début, il a commencé par écrire simplement, il écrivait, et il déposait les chansons, les textes à la SACEM.
Voilà, parce qu'il était, à l'époque, pour être accepté à la SACEM, il fallait prouver qu'on était musicien. La manière de le prouver, c'est qu'il y avait un examen à passer, où il y avait quelque chose d'imposé. Voilà, il fallait qu'il écrive une partition. En bonne et due forme, ce qu'il ne savait pas faire. Il ne connaissait pas la musique, Brassens. Ouais. Donc, il ne pouvait pas déposer ses propres musiques. Par contre, il pouvait déposer ses propres textes, ce qu'il faisait. Il avait été reçu assez facilement comme, comment dire, auteur.
Auteur.
Voilà. Et puis après, il est parti en Allemagne, de force, puisqu'il a été embarqué par, par la Gestapo. En fait, il s'est retrouvé... En 1943 à 1944, il s'est retrouvé dans la banlieue de Berlin, en Allemagne, donc, dans un camp de travail obligatoire, le STO. Et la belle histoire, c'est que Brassens, là-bas, il a rencontré ses potes qui allaient le suivre et qui allaient le seconder d'une certaine façon dans, tout son, dans toute sa carrière. Il a rencontré là-bas Pierre Anténiente.
C'est
formidable.
C'est Gibraltar.
Gibraltar, qui est, devenu son secrétaire particulier, qui s'occupait de toutes ses affaires. Qui s'occupait de ses tournées, il faisait le boulot de coulisses. Peut-être que Brassens sans Gibraltar, il aurait eu du mal, malgré son immense talent. Mais Gibraltar, c'était le pilier de l'administration Brassens. Que Brassens, il n'avait jamais un radis sur lui, il ne savait pas. Il ne s'occupait pas de tout ça. Par exemple, quand Gibraltar m'avait raconté une anecdote, un jour, Brassens voit une DS-19 dans la rue. Une belle DS-19 et il demande timidement à Gibraltar, tu crois que je pourrais en avoir une un jour? Et Gibraltar lui dit, mais Georges, tu pourrais en avoir 100 si tu voulais, avec l'argent que tu as. Il n'était pas au courant. Il ne savait pas.
On va retourner à la chanson?
Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Donc, comme on arrive dans les studios, on va en profiter quand même. Hein.
On met une chanson du CD?
Oui. Donc, tu m'as dit la numéro 10.
Numéro
c'est ça.
10, qui est Que t'importe.
Que t'importe que le ciel soit pur et joyeux, ton ciel à toi c'était ses yeux, elle les emporte. Que t'importe que l'oiseau chante dans le bois, ton chant d'amour c'était sa voix, elle l'emporte. Quelquefois l'amour en délire te sourit bien, mais pour toi le plus doux sourire c'était le sien. Que t'importe les prés et leurs fraîches couleurs, tu n'aimais qu'une seule fleur, le vent l'emporte. À l'époque où les prés portent de jolies fleurs, à l'époque où le ciel devient d'un bleu plus tendre, où le soleil sourit, où l'oiseau fait entendre ses plus belles chansons, tes yeux sont pleins de pleurs, car elle t'a quitté simplement un matin ou un soir, simplement sans querelle, simplement sans savoir que ton cœur bat pour elle. Elle a fait changer ton destin. Que t'importe que le ciel soit pur et joyeux, ton ciel à toi c'était ses yeux, elle les emporte. Que t'importe que l'oiseau chante dans le bois, ton chant d'amour c'était sa voix, elle l'emporte. Quelquefois l'amour en délire te sourit bien, mais pour toi le plus doux sourire c'était le sien. Que t'importe les prés et leurs fraîches couleurs, tu n'aimais qu'une seule fleur.
Voilà, que t'importe Hervé.
Que t'importe, oui, oui. Paroles et musique de Georges Brassens, évidemment. Donc on va parler de cet album, la première chanson. Donc dans quelles conditions tu as récupéré, toi, ces chansons?
C'est la belle histoire qui continue. C'est-à-dire que Brassens, en Allemagne, en 1943, au STO donc, était entouré d'un certain nombre de copains que j'ai connus bien plus tard, évidemment, quasiment 50 ans après. Et un certain René Isquin, à l'époque, partageait la chambre de Brassens. Et ils s'étaient trouvé une passion commune tous les deux. C'était la chanson de l'époque. Donc Mireille, Tranchant, Trenet, et ainsi de suite. Et tous les dimanches, ils avaient décoté un vieux piano pourri dans un réfectoire du camp. Et tous les dimanches, ils se retrouvaient autour de ce piano, parce que Brassens pianotait. Il avait appris le piano chez sa tante. Et il était capable de plaquer des accords et d'accompagner des chansons. Et alors là, ils faisaient tous les deux une sorte de joute. C'était à qui allait déstabiliser l'autre. Ah, celle-là, tu la connais? Bah évidemment, je la connais. Celle-là, ouais, 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 celle-là. Et puis, un jour, Brassens a été surpris parce qu'il avait oublié un couplet d'une chanson et René la connaissait. René, il était à la hauteur par rapport aux chansons. Il en connaissait autant que Brassens. Sauf qu'un jour, Brassens lui dit, celle-là, tu la connais? Il lui chante Reine de bal, au piano. Et là, évidemment, René, il dit, ah ben ça alors, jamais entendu cette chanson. Je la connais pas. Et Brassens lui dit, mais tu ne peux pas la connaître, elle est de moi. Et là, ça a été la révélation pour tout le monde, parce que dans le camp, personne ne savait ce que Brassens faisait. Ce grand gaillard costaud et moustachu, qui était devenu, par son aura et son autorité naturelle, le chef de bande de toute la chambrée, est très respecté. Personne ne savait ce qu'il faisait. Parce qu'à chaque fois qu'on lui demandait « qu'est-ce que tu fais ?»« Moi, rien. » Voilà. « Moi, rien. » Donc là, tout le monde a su ce qu'il faisait. Il écrivait des chansons. C'était un poète et il écrivait des chansons. Bon, à l'époque, écrire des chansons, ça voulait dire autre chose, certainement, que maintenant. Et alors, ce qui s'est passé par la suite, c'est que René a appris toutes les chansons que Brassens avait écrites. Oui. À l'époque, déjà, il avait 21 ans à Basdorf. Il écrivait des chansons depuis 17 ans. Donc, ça faisait 4 ans qu'il écrivait des chansons. Il en avait rempli un petit carnet déjà, un fameux carnet de Basdorf. Et puis, sur place à Basdorf, il en a écrit aussi des chansons. Il a écrit à l'Auberge du Bon Dieu. D'ailleurs, moi, j'ai la date exacte. Il l'a écrite le 19 septembre 1943. Et le 26 août 43 et le 19 septembre 43, c'est marqué à 13h20. Donc il l'a fait là-bas. Ah oui, ouais. C'est écrit sur le carnet, le fameux carnet.
Mais le carnet, c'est des chansons de Brassens ou des chansons qui ont été recopiées?
Alors, Brassens avait certainement écrit, lui, ses chansons sur un carnet. Et les copains aussi ont recopié pour eux les chansons de Brassens. Voilà, que Brassens a certainement validé en signant ou en mettant des petites annotations sur des choses. Parce qu'il a écrit des chansons pour des copains de chambrée en particulier. Il y en a une que je chanterai tout à l'heure qui s'appelle « Un camp sous la lune ». Et ça raconte ce qui se passait, c'est-à-dire que les gars, ils étaient éloignés de leur fiancée ou de leur femme. Et bon, bah, 9 fois sur 10, ça se passait bien, ils avaient des nouvelles régulières et des bonnes. Et puis, bon, bah, dans cette chanson, on comprend qu'il y a un gars qui n'a pas de bonnes nouvelles, quoi. Sa copine, elle l'a largué. Ouais. Donc bah, Brassens, touché par ça, a écrit une chanson. Donc, je continue. Brassens, ensuite, a eu une permission. Il y a eu des permissions qui ont été autorisées par les SS du quartier. Et il était autorisé à rentrer à Paris pour voir sa famille 15 jours. Donc il est parti et il a fait savoir aux autres qu'il n'allait pas revenir. Et les gens étaient d'accord, ses copains étaient d'accord. Bon, c'était un accord qu'il fallait avoir parce que s'il y en avait un qui ne revenait pas, il y en avait un autre qui ne pouvait pas partir. Et l'autre, ouais, c'était René Isquin. René Isquin a dit « Écoute, moi je resterai là jusqu'à la fin de la guerre ». Voilà. Donc René avait appris toutes les chansons de Brassens de l'époque et il a fait un spectacle devant ses copains, devant plusieurs chambrées, avec les chansons de Brassens, en l'absence de Brassens qui était parti donc en permission entre guillemets. Et c'est pour ça que René a été officiellement reconnu comme étant le premier interprète de Georges Brassens. C'était pas son métier, il était pas chanteur, il a travaillé à la Banque de France après. Et à la fin de la guerre, ils se sont retrouvés à Paris avec Brassens, et la première question que Brassens lui a demandé, c'est « Alors, comment ça s'est passé ?» Voilà. Et il voulait parler du spectacle. Parce que Brassens était vraiment super intéressé pour savoir quelle influence il pouvait avoir auprès de ses auditeurs. Comment ça se passait? Comment ces chansons étaient-elles reçues? Comment elles étaient perçues? C'était ça son truc. Lui, il ne voulait pas chanter lui-même, il voulait donner ses chansons à d'autres à chanter.
Il se voyait plus comme poète plutôt que comme musicien, comme chanteur?
Alors, il ne se voyait pas du tout comme chanteur, il n'avait aucune intention d'être chanteur, de se retrouver sur une scène. Mais il se voyait comme, oui, c'est ça, comme poète. Et puis après, bon, selon ses dires, hein, il a déchanté complètement quand il a découvert, comment dire, à travers ses lectures, il a découvert tous les grands poètes, Apollinaire, Verlaine, Hugo, etc. Donc là, il est tombé de sa chaise, il a dit, bon, il a reconnu qu'il n'était pas du tout à la hauteur de ces poètes-là, mais petit à petit, mais à force d'être confronté aux poètes, il a, d'une certaine façon, poétisé, il a rendu sa... Il a poétisé ses propres textes et ses chansons, et il a trouvé son propre style, le style Brassens, qui n'est pas encore évident dans les chansons, les 15 chansons inédites. Mm-hmm. Voilà. Et donc, 50 ans passent, et moi, un jour, je rencontre René Isquin. Et là, René Isquin, on devient copain, il vient à la maison, il me parle tout le temps de Brassens, évidemment. Il nous disait, moi j'ai deux amours dans ma vie, c'est ma femme et Brassens. Donc...
Heureusement qu'ils aient pensé Brassens et ma femme.
Oui. Et puis un jour, je lui dis, mais René, tu es le premier interprète de Georges Brassens, est-ce que tu as fait un disque? Ben non, comment tu veux que je fasse un disque? Or, moi j'avais un petit studio d'enregistrement chez moi, un home studio, comme on dit en français. Ouais. Et ben, je lui dis, écoute, moi je te produis ton disque et on le fait ensemble. Voilà. Et là, ça a été une fois de plus magique. On s'est enfermé pendant 3 semaines dans le studio et on a fait les chansons qu'il préférait. Voilà. Et puis un jour, il m'invite chez lui avec Gibraltar et nos femmes respectives. Tout le monde était vivant à l'époque, moi compris.
Et je veux dire, on confirme.
Voilà. Entre-temps, tout le monde a cassé sa pipe, ouais, sauf moi, enfin, j'espère. Et on se retrouve à Chatou, chez René et sa femme, Gibraltar et sa femme, et Agnès, la femme dont je suis le mari. Et on casse la graine, c'est hyper sympa, il fait beau, on parle évidemment de Brassens, et de Brassens, et de Brassens. Et au moment du dessert, je vois tout le monde qui... Enfin, je vois tout le monde. Je vois la femme de René qui écarte les assiettes, bref. Gibraltar qui sort un mini-cassette qui le plante au milieu de la table. Bon, je les regarde, je ne comprends pas ce qui se passe, mais bon, je le laisse faire. René part dans une pièce à côté, il revient avec un petit sourire et l'œil malicieux. Et je vois dans ses mains un petit carnet, c'est marqué « Chansons de Basdorf ». Donc un fameux carnet de Basdorf avec des chansons de Brassens de l'époque que lui-même certainement avait recopié ou un de ses amis avait recopié et qu'il avait gardé par-devers lui, comme on dit. Et c'est là où c'est complètement inattendu. Moi, je n'avais jamais entendu parler de Basdorf, ni de quoi que ce soit, mais je comprends à ce moment-là qui sont en train de m'enregistrer, enfin qui sont en train d'enregistrer, parce que Gibraltar appuie sur la touche record, et René égrène les chansons pendant une heure et demie, deux fois 45 minutes de chaque côté de la cassette, et il égrène les chansons comme ça au fil des pages.
Il les chante, quoi.
Il les chante à cappella. Il connaissait les musiques. Alors parfois, il s'en rappelait plus. Il disait « Ah, bah celle-là, je m'en rappelle plus. » Ou il s'arrêtait au milieu d'un couplet ou d'un refrain.
Il se rappelait des musiques 50 ans après.
Il se rappelait des musiques.
Alors qu'il ne les avait pas chantées depuis 50 ans.
Alors ça, on ne sait pas. Ça, je ne lui ai pas demandé, mais peut-être qu'il les entretenait de temps en temps. Ouais. En tout cas, le côté extraordinaire de l'affaire, c'est qu'il avait ses chansons en mémoire. Il était le seul au monde à les avoir.
Ah ouais.
Parce que ses chansons n'avaient jamais été enregistrées. Donc il détenait une espèce de trésor.
Et les partitions, elles n'ont jamais été écrites.
Jamais il y avait une partition. Non, il avait conservé les musiques dans sa tête.
Ah, c'est un vrai trésor.
À la fin de l'enregistrement, Gibraltar sort la cassette, ils se regardent tous les deux et Gibraltar me tend la cassette en disant « Voilà, c'est pour toi ».
C'est dommage parce qu'à cette époque-là, la cassette faisait qu'une heure trente.
Non, alors celle-là, elle faisait deux fois 45 minutes. Oui, ça sert, ça fait 1h30. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, et puis en plus, alors après réécoute, je me suis dit... Les années étant passées, je me suis dit, ah mais c'est dommage, parce qu'il y en a, il a voulu les refaire, il l'a refait deux fois, parfois il racontait des choses. Bon, je me dis, ça c'est autant de chansons qu'il n'a pas enregistrées. Ouais. Bon, c'est pas grave, mais c'est comme ça, il y en avait suffisamment pour faire ce disque. Et puis, alors la belle histoire continue. Bon, moi je me retrouve avec ce trésor, j'en fais une sauvegarde évidemment sur un CD, et puis je range ce trésor dans un tiroir, et puis... Je ne dis pas que je l'oublie, mais je ne m'en occupe plus.
Mmh, c'est pour toi, quoi.
Voilà, c'est pour moi, c'est là. Et puis les années passent, 15 ans passent, et un jour je me retrouve comme ça dans une radio, comme à RVM, c'était Radio Libertaire à Paris, avec, au sujet d'un disque, avec un éditeur qui s'appelle Jean-Paul Liégeois, éditeur du Au Cherche Midi, collection Brassens. Et puis, j'entends au cours de l'émission... Jean-Paul Liégeois qui dit « Le Cherche-Midi s'apprête à sortir les chansons de jeunesse de Brassens. Malheureusement, les musiques sont à jamais perdues. » Et là, évidemment...
Que nenni !
Là, ça fait tilt. Et hors antenne, je lui dis « J'ai une bonne nouvelle si ça t'intéresse. » Et je lui raconte l'histoire. Alors là, évidemment, il dit « Écoute... on va faire quelque chose, je vais demander au Cherche-Midi s'ils sont d'accord, on retarde la sortie du bouquin. » Et ils m'ont demandé de faire 6 chansons.
Ouais, d'illustrer le bouquin.
Qui serait, le disque serait glissé, c'est ce qui a été fait, le disque a été glissé dans le bouquin. Et j'ai donc là, à partir des chansons de René Isquin enregistrées sur la cassette a cappella, j'ai trouvé les harmonies. J'ai imaginé ce que Brassens aurait fait lui-même à la guitare sur ses chansons, et le disque est sorti. Voilà. Donc j'ai tout fait à la guitare, sauf une que j'ai faite au piano, qui est la fameuse la première chanson que Brassens a chantée à René Isquin, « Reine de bal », et il l'a faite au piano, donc j'ai trouvé que c'était bien de la faire au piano.
Donc là, il y avait, sur la première version, il y avait donc 6 titres.
Oui.
Et là, il y a une nouvelle version maintenant, quelques années après.
Oui, parce que
c'est toujours la demande
de Jean-Paul Liégeois. Les belles histoires, ça ne s'arrête jamais, en fait. Et avec Brassens, ça continue en permanence.
Ouais.
Donc, ce disque est sorti dans ce bouquin du Cherche-Midi en 2016. Et puis, il y a quelques mois, Jean-Paul Liégeois m'appelle. Il me dit, voilà, le Cherche-Midi va rééditer le bouquin des premières chansons de Brassens, mais en édition de poche. Dans une édition de poche, on ne peut pas remettre ton disque dedans. Par contre, j'ai parlé... à un distributeur, pour ne pas le nommer, EPM, du gros distributeur depuis des années de chansons françaises, voilà. Et le gars, le PDG, est très intéressé pour te contacter, ce qu'on a fait. Et puis alors là, c'est vrai que Christian de Tarlet, le PDG, était hyper enthousiaste sur le projet. Donc ça s'est fait. Je me suis enfermé pendant quelques mois dans mon studio et j'ai choisi encore... 9 autres chansons qui sont venues s'ajouter aux 6 premières. Voilà. Et dans le disque, on trouve donc au total, pour le grand public, puisque c'est la première fois que ce disque est en vente, parce que la première fois il était offert, pour le grand public, il y a 15 chansons, et j'ai voulu mettre dedans les chansons de la cassette enregistrées par René, qui donnent
l'atmosphère.
Qui donnent l'atmosphère de cet enregistrement, et puis... qui permet d'entendre René chanter les chansons de son ami. Voilà.
Faut pas oublier que là, Brassens était né en 1921,
ouais,
et qu'il est décédé en 1981.
Ouais.
Donc cette année, en fait, le centenaire de sa naissance.
Tout à fait. Et, les 40 ans de sa mort.
40 ans de sa mort. Donc ça a aussi un impact
Oui.
Sur ce CD-là.
Ouais.
Il sort à point nommé.
Il sort à point nommé, oui. Et d'ailleurs, il a un accueil assez favorable. Puisque là, sur le site de PM, c'est un disque qui attaque sa 7e semaine en tête des ventes. C'est plutôt inattendu aussi.
Et comment tu l'expliques, ça, ce succès de Brassens? Parce qu'il y a plein de générations, des jeunes générations, qui se reconnaissent dans Brassens. C'est incroyable, quoi. C'est qu'il est intemporel, ce monsieur?
Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, oui. Je pense que Brassens a fait quelque chose de tellement inattendu dans la chanson française, avec une telle qualité sur le plan de la musique, le plan des paroles, et puis l'interprétation du gars. C'était pas une bête de scène, c'était pas Jacques Brel. Mais il avait son style, voilà, et ça restera. Alors, intemporel, on verra bien. Si la langue française disparaît un jour au profit d'une autre langue, peut-être que Brassens disparaîtra avec l'eau du bain, comme tout le monde. Mais bon, on n'y est pas encore, mais ça peut arriver très vite. Mmh. Ça peut arriver très vite, il n'y a qu'à regarder la langue bretonne, la langue du sud de la France qui ont disparu en quelques années parce qu'on ne pouvait plus les parler. Si du jour au lendemain on glisse vers l'anglais, c'est très vite. Claude Duntont, écrivain, en a bien mieux parlé que moi, évidemment, c'était sa spécialité. Il explique que ça peut aller très très vite, qu'une langue disparaisse.
Oui, mais comme il est chanté dans toutes les langues, il ne peut pas disparaître.
Oui, bah espérons qu'il ne disparaîtra pas.
Parce qu'il est chanté aussi bien en français, anglais, espagnol, dans les pays africains.
Oui, c'est vrai.
Il y a les interprètes dans le monde entier de Brassens.
C'est vrai, mais c'est quand même la langue française qui le représente le mieux. Quoi. C'est Brassens, c'est très français, très très français, avec des références à la France profonde.
Ouais.
Bon, je ne sais pas ce que ça donne en américain, par exemple.
Bah, ça ne peut pas être pareil, parce que ce n'est pas le même vécu, ce n'est pas la même chose.
Voilà,
c'est vraiment lié à l'histoire au niveau de la France. Quoi. Qu'est-ce que ça te procure, toi, Yves, quand tu interprètes Brassens, alors?
Eh bien, moi, en tant que comédien... ça me procure beaucoup de plaisir, évidemment, parce qu'il y a des personnages, il y a des situations. C'est très théâtral, en fait, Brassens, si on regarde bien. Il y a des personnages truculents. Et puis, c'est poétique, c'est super bien écrit. C'est la Rolls-Royce. Brassens, pour moi, c'est la Rolls-Royce. Je m'installe dans la chanson, et tout est là, tout est à sa place. On n'entend pas le bruit du moteur, c'est-à-dire qu'on ne sent pas la technique. Les musiques sont fabuleuses, ça coule tout seul. Oui, pour moi, c'est le Molière de la chanson, Brassens. Le Molière de la chanson française.
On retourne à l'interprétation.
Oui, donc
la chanson qui est numéro 15 sur l'album.
C'est ça.
La ligne brisée. On en parlera un peu après de la ligne brisée.
Ah oui, d'accord.
Sur la séquente improvisée d'une demi-sphère céleste, une longue ligne brisée, harmonieuse, souple et leste, exécute la danse de Saint-Guy, exécute la danse, de Saint-Guy, exécute la danse, de Saint-Guy. Onduleuse, 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 elle erre sur la nébuleuse, leuse, leuse, astronomiquement scandaleuse, fabuleuse, 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 elle erre sur la nébuleuse, leuse, leuse, astronomiquement fabuleuse. Et zigzag, et zigzag, et zigzag, et zigzag donc, sur l'air vague, 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 et vague, et vague d'un borigodon, d'un borigodon, la faridondaine, d'un borigodon, la faridondon, d'un borigodon, la faridondaine, d'un borigodon, la faridondon. Font les passants et les passantes. Que cette ligne est indécente. Huons-la, 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 huons-la. Allons-y, 1, 2, 3. À mort la ligne qui n'est pas droite. Allons-y, 1, 2, 3. De se briser qui lui donna le droit.
Dites-le nous.
Dites-le moi. Mais la ligne inconnue
continue. Malgré les invectives savamment laxatives, sa danse excitative dans le ciel. Onduleuse, 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 elle erre sur la nébuleuse, leuse, leuse, astronomiquement scandaleuse. Fabuleuse, 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 elle erre sur la nébuleuse, leuse, leuse, astronomiquement fabuleuse. Et zigzag, et zigzag, et zigzag, et zigzag donc sur l'air vague, 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 vague et vague d'un beau rigodon. D'un beau rigodon, la faridondaine, d'un beau rigodon, la faridondon, d'un beau rigodon, la faridondaine, d'un beau rigodon, la faridondon. Sur la séquence improvisée de la demi-sphère céleste, une longue ligne brisée, mais harmonieuse et très leste, exécute la danse de Saint-Guy, exécute la danse de Saint-Guy. Et se fout manifestement, et se fout fantastiquement, et se fout frénétiquement, et se fout manifestement, et se fout fantastiquement, et se fout frénétiquement. De tout le monde.
Bravo.
La ligne brisée, hein, super. Donc c'est une interprétation libre. Je pense que Brassens n'aurait peut-être pas fait comme ça, si.
Alors, je me suis posé beaucoup de questions avec cette chanson, parce que j'ai entendu des choses de la bouche de René et de Gibraltar qui contaient le contexte de cette chanson. C'était une chanson un peu révolutionnaire.
Ouais.
C'est-à-dire que Brassens et ses amis étaient donc d'une certaine façon prisonniers dans un camp, ils devaient travailler tous les jours, et évidemment, un gars comme Brassens, ça lui tapait sur le haricot. Hein. Donc c'est une expression de liberté à travers cette chanson. C'est la ligne brisée, c'est-à-dire on arrête d'être cartésien, droit, de recevoir des ordres, etc. Et on casse cette ligne et en gros, on fout la merde, quoi. Hein, c'est une sorte de révolte. Et là où je me suis dit, il faut prendre un parti musicalement, c'est-à-dire que Brassens avait créé une sorte de chorale là-bas. Avec ses potes. Oui. Donc, ils étaient plusieurs à chanter cette même chanson, et j'ai imaginé la déconnade que ça pouvait représenter. Et la nuit, ils faisaient des expéditions un peu punitives. Ils allaient dans les couloirs et ils chantaient la ligne brisée, tous ensemble. Et ensuite, ils se carapataient et ils retournaient dans leur lit en attendant, en attendant le matin et en espérant que personne ne vienne avec des chiens et les sanctionner à la dure. Quoi. Donc, ça a créé un petit malaise quand même dans l'équipe, parce qu'il y en a qui ont eu peur. Voilà, ils ont eu peur. Oui,
donc, des représailles.
Oui, des représailles, bien sûr. Ouais. Oui. Parce qu'en plus, ils faisaient des dessins sur les portes. Ils faisaient des lignes brisées.
Oui.
Espèce d'éclairs comme ça, à la craie ou je ne sais pas comment. Mais donc, la peur s'est installée. Brassens a baissé les bras par rapport à ça. Il a dit OK. Il ne voulait pas entraîner des gens dans des difficultés qui pouvaient peut-être leur coûter la vie. On ne sait pas. Hein. Dans des époques guerrières comme ça, tout peut arriver.
C'était quand même à l'intérieur pour garder un esprit rebelle,
oui.
Malgré le travail.
Malgré tout, voilà. Donc, quand je me suis retrouvé confronté à cette chanson chantée a cappella par René, mais que j'ai entendu tous les commentaires de René de Gibraltar autour de cette chanson, et puis j'ai lu avec grand intérêt l'histoire de René Isquin à Basdorf, qui a été, il a raconté à un écrivain qui a écrit son livre. C'est super intéressant. Là, on rentre dans les coulisses de Basdorf. Mais je me suis dit, ok, je vais faire comme si c'était une chorale. Et puis, à ce moment-là, toute la saveur de la chanson, tout le côté grandiloquent, complètement loufoque, presque Alfred Jarry. Ubu, avec des personnages hauts en couleur, gros, avec des gros bides, etc. Et là, je me suis totalement régalé. Et je me suis dit, je pense que ça pouvait ressembler à ça quand ils se mettaient tous ensemble dans les couloirs à gueuler cette chanson et à cavaler ensuite comme des clowns qui vont se cacher dans leur chambre, comme si rien ne s'était passé.
Et parce que quand il écrivait ça, il ne pensait pas que ça serait une chanson qu'il pourrait chanter sur scène.
À cette époque-là, c'était pour
les copains, c'était les choses.
Ah oui, là, c'était vraiment typique pour Basdorf.
Ouais.
Oui. Et puis Brassens n'aurait jamais chanté une chanson comme ça tout seul. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est inchantable, pratiquement. Ça part dans tous les sens, c'est complètement surréaliste. Et c'est la seule chanson comme ça que Brassens a jamais faite.
Là, pour revenir à l'album, là, les gens qui vont écouter cet album-là, je pense qu'ils quand même vont être un peu déstabilisés parce qu'on ne reconnaît pas le style Brassens dedans. Et le style des chansons de Brassens, c'est plutôt... Moi, quand je l'ai écouté, c'est plutôt le style traînait, un peu avant, quoi.
Tout à fait. Parce que les chansons
qui sont un peu plus gentillettes, qui sont un peu plus... qui parlent un peu plus d'amour, de jeunesse, de choses comme ça. Ouais. Il n'y a pas encore un style Brassens dedans.
Non, il n'avait pas trouvé son style. Brassens n'était pas encore né. Donc Brassens, là, il était inspiré par ce qu'il entendait lui-même à la radio. Mm-hmm. C'est-à-dire traînait, beaucoup traînait, il adorait traîner. Mais aussi Mireille, Jean Nohain, Tranchant, voilà. Ouais. Tous ces gens-là, donc effectivement, ça s'entend, on le ressent ça. Mm-hmm. D'autant plus que, n'ayant pas trouvé son propre style, il ne pouvait pas se démarquer vraiment, et il était prisonnier, bien entendu, il l'a reconnu par la suite. Hein. D'ailleurs, il ne voulait pas chanter ses chansons. Mm-hmm. Il ne les a jamais chantées, il ne les a jamais enregistrées. Ce n'est pas qu'il les a reniées, mais c'était un peu ces brouillons de ces merveilleuses chansons qu'il fera par la suite. On retrouve quand même certains petits points d'ancrage. Par exemple, dans L'Auberge du Bon Dieu, quand il chante, je ne retrouve plus là, à un moment, il y a une expression, on se dit, il n'y a que Brassens qui peut chanter un truc pareil. Voilà. Leur fillette avait sans rire fait un acte ignominieux. Personne n'employait un mot comme ça dans une chanson, même à l'époque.
Hein. Oui, on retrouve un peu le langage.
Ignominieux, c'est Brassens, ça. Voilà. Et puis, bon, malgré tout, dans La Ligne brisée, on a aussi un aperçu de Hécatombe, qui viendra par la suite, qui est une espèce de gros délire, surréaliste aussi, avec des gens qui se tapent à coups de mamelle dans la tronche. c'est Uburois aussi. Ouais. Hein, c'est, voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu as raison, Brassens, c'était pas encore Brassens. Il l'a dit par la suite, il a dit que sur le plan musical, il se considérait déjà à la hauteur. Et il avait parfaitement raison. Les mélodies qui sont dans ces 15 chansons, dans ce disque, sont déjà des superbes mélodies. Il savait déjà écrire des chansons.
Ouais.
Il a dit, sur le plan musical, j'étais déjà bon.
Ouais.
Sur le plan des paroles, il a reconnu qu'il n'était pas bon et qu'il avait encore du chemin à faire. Il a dû travailler, tandis que musicalement, il n'a pas travaillé. Il avait déjà fait le travail sans s'en rendre compte. Puisque dans sa famille, tout le monde écoutait de la musique, tout le monde écoutait des chansons. Donc il a fait ses universités comme ça, dans sa propre famille, sans trop se rendre compte qu'il était en train de travailler pour son futur.
À aucun moment dans sa carrière artistique, il a chanté une de ses chansons.
Jamais. Jamais, jamais. Il en a chanté une qui n'est pas sur le disque, parce qu'elle ne fait pas partie des chansons dites de jeunesse, qui s'appelle, à l'époque elle s'appelait Viens, et c'est devenu... Pour ne pas la confondre avec la chanson de Bécaud qui a le même titre, c'est devenu Il n'y a d'honnête que le bonheur. Voilà. Mmh. Et là aussi, Gibraltar m'avait filé une cassette. Bon, maintenant, c'est devenu public parce que ça a été repris sur un disque d'Universal. Et on entend Brassens là-dedans qui dit clairement, ça, c'est mon ancien style.
Ah oui.
Voilà. Donc, toute cette période avant son premier disque, c'est-à-dire avant 52, c'est son ancien style et il n'en a jamais enregistré la moindre ligne.
Mais il y a quelque chose, il y a un déclenchement qui l'a fait changer de style ou pas ? Quand il est rentré après Basdorf.
Alors il a beaucoup travaillé, il a dû travailler la guitare, ça c'est, on n'en parle jamais, mais ce gars-là, il ne savait pas jouer de guitare.
Ouais.
En rentrant d'Allemagne, il jouait un peu de piano, c'est tout. Mmh. Mais il ne jouait pas du tout de guitare, donc il a appris la guitare tout seul. Il y a un de ses copains, Jacques Grélot, qui lui a donné une guitare, et on ne sait pas comment il a appris la guitare, Brassens. Tout seul, certainement, mais c'est tellement difficile d'apprendre tout seul et surtout d'arriver à un niveau tel. Quoi.
Les accords qu'il a sont assez costauds quand même.
Ben oui, c'est des accords que tout guitariste connaît. Donc il faut les travailler, il faut les assimiler. Puis après, il faut être capable de faire une chanson autour de ça et d'utiliser ces accords. Donc là, il a fait un travail invisible dont il n'a jamais parlé, à mon avis. Il faudrait que je demande peut-être à Joël Favreau, peut-être qu'il s'est confié à lui à ce sujet-là. Et
Joël Favreau
qui était
l'accompagnateur,
la deuxième guitare de Brassens sur les 15 dernières années de sa carrière. Ouais.
Sur les réenregistrements aussi, ça a été réenregistré ses chansons avec Joël Favreau, c'est ça?
Alors il faisait la deuxième guitare.
Ouais.
Il a fait un réenregistrement d'une seconde guitare sur La Supplique pour être enterré à la plage de Sète, puisque Brassens, pour des raisons techniques, n'avait pas pu, il y avait une grève de techniciens, n'avait pas pu faire ce disque dans des conditions habituelles chez Universal ou Philips à l'époque. Donc il avait fait ça chez lui. Les techniciens disponibles avaient enregistré ce disque chez lui, mais en l'absence de deuxième guitare. Il avait toujours regretté qu'il n'y ait pas une seconde guitare sur cette chanson, sur ce disque, et Joël Favreau, des années après, donc, a fait cette seconde guitare sur La Supplique. Voilà.
Là, on a 15 chansons, donc est-ce qu'il y en aura d'autres ou pas?
Bonne question, bonne question. En fait, j'ai encore la possibilité d'en faire un deuxième.
Encore une quinzaine?
Ouais. 12 ou 13.
Où t'as des mélodies, quoi.
J'ai les mélodies complètes.
De Renichien.
J'ai les mélodies complètes. Et puis, j'ai des textes différents sur des mélodies que tout le monde connaît. C'est-à-dire, j'ai la première version de certaines chansons qu'on connaît tous. Par exemple, Brave Margot, avec les premières chansons que Brassens a écrites sur cette musique, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît. On est dans le style romantique que tu as décrit tout à l'heure. Il y en a deux ou trois comme ça. Donc celles-là, je les ferai. Enfin, je peux les faire. Et puis j'en ai encore 4 ou 5 complètement inédites. Et malheureusement, j'en ai d'autres à moitié. J'ai le couplet, j'ai pas le refrain. J'ai le refrain, j'ai pas le couplet. Bon, là, on peut pas faire grand-chose. Malheureusement.
Est-ce que tu as besoin d'une autorisation pour chanter ces chansons-là de Brassens? Est-ce que les descendants, la famille, ont un œil là-dessus?
Ouais.
Ou pas?
Oui, l'ayant droit de Brassens, qui est le neveu, le petit-neveu de Brassens, oui. Le neveu de Brassens, oui. Le fils de sa sœur, Serge Cazzani, qui a le droit moral sur toutes les chansons de Brassens. Donc évidemment, on lui a demandé l'autorisation. Donc il a été d'accord, évidemment. Sinon, bon, certainement qu'on aurait pu passer en force, mais il n'en était pas question. On ne peut pas trahir, parce que lui, il représente Brassens. Donc, sur le contrat, c'est signé Serge Cazzani pour Georges Brassens. Donc, c'est comme si Brassens donnait son autorisation. Alors, ça a été l'objet d'un débat, évidemment. Est-ce qu'il faut sortir ces chansons alors que Brassens lui-même ne voulait pas les chanter? Eh bien, la réponse a été oui. On les sort comme on exposerait des brouillons de Picasso si on les retrouvait dans un carton sous son lit. Ouais, parce que ça fait partie de l'œuvre de Brassens. Ouais,
comme un témoignage,
voilà. Donc, maintenant, la question ne se pose plus, puisque ces chansons existent. Elles sont enregistrées.
Là, il y avait 68 textes sur le livre, là. Est-ce qu'il y a des textes où on peut mettre de la musique, créer de la musique?
Oui,
il y en a. Tu as l'autorisation de créer n'importe quel accompagnement pour des textes qui existent, donc on ne connaît pas la musique?
Oui. Bien sûr. Normalement, il faut demander quand même l'accord à l'ayant droit, Serge Cazzani. Il y en a qui ne le font pas. Voilà. Mais ça a été fait déjà. Il y a des gens qui chantent, on retrouve ça sur YouTube, des chansons du livre, donc du carnet de Basdorf, avec des musiques qui ne sont pas de Georges Brassens.
Et toi, qu'est-ce que tu en penses?
Pourquoi pas, si c'est bien fait.
Mais tu t'attaquerais à ça, toi aussi?
Je crois pas, non. Je sais pas. Ça ne m'est pas venu à l'idée. Il y a des chansons... Non, je crois pas que je le ferai.
Ouais.
Mais je n'ai pas réfléchi à la question suffisamment, parce que tu me poses la question à l'instant.
Ouais.
Je ne sais pas, mais il y en a qui le font et qui le font bien.
Il y a des chansons peut-être à faire découvrir, quoi, comme ça.
Oui.
Parce que c'est une façon de les faire découvrir, parce que les textes sans ça resteraient...
C'est vrai.
Mais dans les cartons, au fond des tiroirs.
C'est vrai. Mais on a le livre, on peut lire les textes.
Ouais.
On peut lire les textes.
À l'heure actuelle, les gens lisent de moins en moins.
Ouais. Alors, il va falloir que ça revienne, hein, parce que sinon, on va vous taper sur les doigts. Hein. Et puis, moi, je prends tellement de plaisir à chanter les chansons de Brassens, celles qui sont connues, celles qu'il a enregistrées. Il y en a encore, là.
Mais celles-là sont formidables, quand même. Hein.
Lesquelles?
Celles de l'album.
Les inédits, oui. On découvre un Brassens complètement différent.
Ouais. C'est une autre atmosphère. C'est...
Complètement, oui. Très romantique. Brassens... Un Brassens qu'on ne retrouvera pas de cette façon-là dans ses chansons qui ont fait son succès.
Qu'on ne retrouvera jamais.
On ne retrouvera jamais. Parce qu'après, il y rajoute de la dérision, il y rajoute de l'humour, il y rajoute une distance.
Est-ce que c'est les conséquences de la guerre après? Parce qu'il va devenir un peu libertaire, anard et tout ça. Donc quand on est anard, on n'écrit plus des chansons comme ça.
Écoute, peux pas parler pour lui, mais je pense qu'il a fait une prise de conscience et il a été, à force de travailler, parce que c'était une bête de travail, c'était sa passion d'écrire des chansons. Mmh. C'était sa passion. Voilà, lui, s'enfermer dans son bureau à écrire des chansons, c'est ce qu'il aimait le plus au monde. Bah, à force de travailler, à un moment, il a dû réaliser qu'il avait trouvé une piste, ouais. Et que cette piste faisait son originalité, et c'était lui. Donc là, il s'est engouffré là-dedans, et ça a donné le Brassens qu'on connaît.
On va écouter une autre chanson ?
Allez.
Allez, ben on t'écoute.
Ah, en direct ?
Ah ben oui, ben, évidemment.
On te laisse t'installer, voilà. Il reprend sa guitare, voilà. Oui, on va en profiter, hein. Surtout des chansons inédites, hein, donc voilà.
Donc, c'est la chanson qui s'appelle « Un camp sous la lune » et qui a été écrite pour le fameux copain qui venait de perdre sa copine, quoi. Il venait de la prendre. Dans un camp sous la lune endormi, il y avait quatre amis d'infortune qui parlaient de la blonde ou la brune. Dans un camp sous la lune endormi, le premier racontait ses amours avec une gentille bergère qui prodigue au milieu des fougères, lui avait tout donné le même jour. Le second, qui était un malin, mais qui avait le cœur bien volage, racontait comment son petit village de marmots grâce à lui était plein. Le troisième évoquait l'heureux temps où sa main dans la main de sa mie, il allait doucement dans la vie. Il allait en chantant. Comme le dernier ne disait rien, ses trois compagnons lui demandèrent de compter ses amours de naguère. Le bonheur des amis fait du bien. Mais il ne leur a pas répondu, et ses yeux trahissaient toute sa peine. Car là-bas, dans sa ville lointaine, elle ne l'avait pas attendu. Dans un camp, sous la lune, endormi, il y avait quatre amis d'infortune qui parlaient de la blonde ou la brune. Dans un camp sous la lune endormi.
Bravo, dans un camp sous la lune.
Un camp sous la lune, donc là, ça traduit bien ce que vivaient ces gars-là.
Et il a gardé beaucoup de copains de Basdorf, à part René Ischquin et Pierre Autonnerne.
Alors, il y avait aussi, je ne vais pas dire de bêtises, je ne me rappelle plus. Je vais dire une bêtise, donc ouais, je préfère me taire, ouais. Mais il y a un livre que je rappelle, donc qui s'appelle « Dans un camp », qui a été écrit par Jean-Yves Vincent, écrivain, qui a traduit les propos de René Ischquin. Et là, on apprend tout sur Basdorf.
Fred ?
Eh ben, écoute, moi, je suis très heureux de découvrir cette partie de la vie de Georges Brassens, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savait cette histoire. Donc, je remercie Yves de nous avoir évoqué tous ces souvenirs. Et tu es quand même privilégié, parce que tu as pu avoir cette rencontre avec ses amis. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer Georges Brassens, toi ?
Jamais, sinon en tant que spectateur. Je l'ai
oui,
vu deux
tu l'as vu en concert
fois,
quand même. Oui.
Deux fois, oui. Mais sinon, ben non, c'est le pion qui manque dans cette belle histoire. Mais maintenant, je l'ai rencontré à travers ses chansons. J'ai failli le rencontrer, puisque à l'époque, je tournais un film dans sa rue, tout au bout de sa rue, quand il habitait dans le 14e, rue Santos-Dumont. Et un jour, en allant sur le lieu du tournage, ben, je passais tous les jours devant chez lui et les gens me disaient, mais, enfin, les copains me disaient, mais va voir, sonne à sa porte, ce que je n'ai jamais fait. Mais un jour, j'ai vu une petite voiture qui sortait d'un garage, qui s'est dirigée vers moi, et là, il est passé à un mètre de moi et j'ai reconnu Brassens évidemment dedans, quoi. C'est le seul contact qu'on a eu en direct. J'aurais peut-être dû me faire écraser, ça aurait été plus facile.
Il aurait fait une chanson là-dessus. Ah
ben voilà, ouais.
Et t'as jamais non plus rencontré sa copine, Pupchen.
Si. Ah si, ça, c'était génial ça. À la fin d'un spectacle à Bobino, il y a un gars qui était très très pote avec Pupchen qui me dit, tiens, je t'invite à manger chez moi un soir, et puis il y a une surprise au dessert. Bon, moi je m'attendais à un gâteau. Mais non, le dessert c'était toc toc toc. Ça frappe à la porte, tiens, je vais ouvrir, tiens, qui est-ce donc? Et c'était Pupchen, la fameuse amoureuse de Brassens, qui est restée dans l'ombre de Brassens pendant 30 ans, mais qui était l'amoureuse réelle de Brassens. Et on a passé la soirée ensemble avec elle, c'était génial, quoi. C'était super et totalement inattendu.
Hervé, malheureusement, l'émission se termine. On va se quitter en musique, peut-être.
Oh, voilà, une petite chanson pour finir. La chanson des bois.
Allez, la chanson des bois. Ouais.
La numéro 2.
Oui. Merci de ton passage à l'antenne.
Avec grand plaisir.
Et puis donc, chez EPM, hein, on peut retrouver ce CD.
Absolument. Inattendu.
Merci Hervé. À bientôt aussi.
À bientôt. Merci Yves.
Voilà. Artiste en liberté vous dit à bientôt. Au revoir.
Jeune belle, regard simple et tendre. Jeune belle, donnez-moi la main. Donnez-moi la main sans plus attendre. Nous suivons ce grand chemin. Il nous conduira tout droit vers une forêt belle et profonde. Et nous oublierons bientôt le monde. Car dans ce charmant endroit, on entend que la chansonnette du ruisseau qui court dans le bois, de l'oiseau perché sur le toit d'une maisonnette. On ne voit que l'aile brillante du papillon qui vient des cieux pour se poser silencieux sur la fleur aux couleurs riantes. Dans vos cheveux semés de fleurettes, je poserai des baisers très doux. Mais au-dessus de votre collerette, les baisers deviendront un peu plus fous. Quand l'amour viendra vous sourire, vous n'aurez pas un air surpris, car vos yeux semblent vouloir dire que vous m'avez déjà compris. La chanson dit encore que la belle goûta fort la romance des bois, et qu'avec son amour fidèle, elle alla la chanter plusieurs fois. Ils se sont aimés longtemps dans cette forêt belle et profonde, sans rien voir, sans s'occuper du monde. Car lorsque l'on a 20 ans, on entend que la chansonnette du ruisseau qui court dans le bois, de l'oiseau perché sur le toit d'une maisonnette. On ne voit que l'aile brillante du papillon qui vient des cieux pour se poser silencieux sur la fleur aux couleurs riantes. Les vrais amants ne prennent de la vie que le bon côté, l'amour, les chansons. Les vrais amants n'ont jamais d'autre envie que de s'aimer gentiment, sans façon.
Artiste en liberté.
Une émission goupillée par Fred et Hervé qui vous fait découvrir, dans les conditions du direct, les artistes locaux.